celui qui vous apprend un mot, vous êtes son débiteur pour la vie.
L'acteur, c'est quelqu'un qui travaille sans travailler, quoi.
Donner quelque chose de soi, sinon il n'y a pas de musique, il n'y a pas de chant.
La poésie est la langue mère de l'être humain.
Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Nicolas Benita,
Leslie Carretero.
Bonjour, bonsoir. Crime de papier, c'est le titre du roman graphique dont nous avons choisi de vous parler aujourd'hui. Une plongée dans l'une des affaires les plus noires, les plus douloureuses, les plus honteuses, sans doute aussi du XXe siècle en France. L'histoire d'un homme et de ses victimes. Un homme qui connut les honneurs de la République avant de connaître les rigueurs de la justice. Nous sommes le 18 octobre 1997, récit de France 3.
Maurice Papon arrive au palais de justice à bord d'une voiture de tourisme. Cette image sera la seule autorisée par l'accusé. Il va refuser d'être photographié dans son box entre deux policiers. Il veut à tout prix éviter d'avoir l'apparence d'un coupable. Avec la même volonté, l'un de ses avocats a d'emblée demandé sa mise en liberté au magistrat de la cour. Maurice Papon a passé sa première nuit dans une cellule de 10 mètres carrés. Selon Maître Varro, lui imposer cette situation pendant 11 semaines serait dangereux pour sa santé. Mais selon le procureur général Desclos, la loi exige qu'un accusé soit détenu jusqu'au verdict. Pas question de faire une exception pour Maurice Papon. Avant même que les jurés n'aient été tirés au sort, le procès Papon a commencé par une passe d'armes.
Après 6 mois d'audience, la condamnation tombe. 10 ans de prison pour complicité de crimes contre l'humanité, pour sa responsabilité dans la déportation de 1600 juifs. Il n'en fera que 3. Il sera en effet libéré en 2002 pour raison médicale. La procédure, elle, aura duré 16 ans. Johanna Sébrien et Jean-Baptiste B. nous la racontent. Ils publient Crime de papier chez Actes Sud l'an 2. Vous m'en direz des nouvelles.
Vous m'en direz des nouvelles.
Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Johanna Sébrien, vous êtes la scénariste et Jean-Baptiste B, l'illustrateur du livre. Alors c'est votre première BD, votre premier roman graphique plus précisément. Il n'y avait pas plus simple que l'affaire Papon, Johanna Sébrien?
Sans doute, mais j'aime les choses compliquées, faut croire.
Jean-Baptiste B, vous aussi, parce que on se dit quand même pour illustrer un dossier aussi compliqué.
Bah c'est vrai que c'était assez compliqué, ça m'a pris beaucoup de temps, mais voilà, non, c'était un projet assez ambitieux et pour une entrée dans le monde de la BD, ça me plaisait bien.
D'où est venue l'idée du livre, Johanna Sébrien?
En fait, j'avais fait un mémoire au cours de mes études à Sciences Po sur le procès Papon et la mémoire française. Et quelques années plus tard, m'est venue l'idée, en replongeant dans le roman graphique, d'adapter en fait cette histoire sous forme de fiction.
Mais pourquoi justement avoir voulu retracer le parcours du dossier Papon, le parcours du combattant, dans une certaine mesure, à travers précisément les images d'un roman graphique?
Je l'ai pensé de façon très visuelle dès le départ, sans doute parce que j'ai été très marquée, notamment par Maus, qui est un roman graphique assez connu sur la Shoah.
Art Spiegelman.
Art Spiegelman, exactement. Et puis il y a eu aussi les grands films sur la Shoah. Je pense à La vie est belle, quoi d'autre, La liste de Schindler. Voilà, tous ces films qui m'ont énormément marqué, et je pense que c'est une façon de m'inscrire un peu dans la continuité quelque part.
Ces références-là, vous les avez aussi utilisées, Jean-Baptiste B, lorsque vous avez pris le crayon?
Bah oui, beaucoup, parce que surtout pour les recherches d'images, je me suis beaucoup inspiré par notamment de films et après de vidéos existantes sur Internet sur la période.
Sophie Tourletin nous a rejoint. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Alors on est loin des albums de Tintin ou d'Astérix. Hein. Vous qui êtes un peu notre spécialiste du 9e art, le roman graphique, est-ce que c'est une bande dessinée comme les autres? Oui.
J'ai en tout cas l'impression que c'est devenu un passage quasi obligé pour de nombreux auteurs de bandes dessinées. D'un côté, il y aurait les bandes dessinées traditionnelles, ce qu'on appelle dans le jargon les cartonnés couleurs d'une cinquantaine de pages, avec ou sans histoire suivie, quelquefois un gag par page, hein, par exemple Boule et Bill. Et de l'autre, ces romans graphiques destinés à un public plus mature.
Oui, des bandes dessinées entrent un petit peu dans l'âge adulte, on peut dire ça?
Voilà, et puis ça permet différents formats. Hein. Par exemple, des formats plus petits, ou peut-être pas plus grands, mais plus petits que les BD traditionnels, avec une pagination plus importante, qui peuvent intégrer du texte ou des images, des cartes, des photos, etc. Donc ça permet toute la liberté. Par opposition aux BD traditionnels, ces volumes ne fonctionnent pas forcément non plus en série, ils peuvent être des tomes uniques, mais ça peut être aussi plusieurs des séries, et s'adapter à tout type de sujet, y compris le récit de l'intime, l'autobiographie, biographie, le social, ou ici en ce qui nous occupe, l'histoire avec un grand H.
Alors où est né le roman graphique, Sophie? Puisque bon, la bande dessinée, elle prend quand même des formes très très différentes. On parle toujours de la bande dessinée franco-belge, hein, type Tintin pour faire simple. Il y a aussi la bande dessinée américaine, les fameux comics, les mangas japonais. Où est né ce roman graphique?
Eh bien écoutez, on estime que le terme de graphic novel, donc là je vous donne un indice en anglais, est né à la fin des années 70 aux États-Unis pour qualifier un ouvrage de l'auteur américain Will Eisner, Un pacte avec Dieu. Ce n'est pas innocent si le terme et la pratique soient nés aux États-Unis, car cela permettait de distinguer ces ouvrages différents, destinés donc à un public adulte, des comics, ces bandes dessinées publiées en série dans des journaux et narrant souvent les aventures de super-héros à destination des enfants. Donc, aux États-Unis, toute bande dessinée publiée en volume épais hors du circuit traditionnel des comic books peut être appelée roman graphique.
Et en France ?
Eh bien, certains éditeurs, je pense à Casterman ou Dargaud, ont maintenant leur collection spécifique, un roman graphique par opposition donc au cartonné couleur. En France, on peut presque estimer que les aventures de Corto Maltese dessinées par Hugo Pratt dans les années 70 ressortent de cette définition. Alors, depuis une dizaine d'années, déjà tous les auteurs, quasiment ce que je vous disais, se sont engouffrés dans cette brèche qui permet donc toutes les libertés, qui permettent aussi d'échapper au carcan des cases par page, des bulles, hein, ce qu'on appelle les phylactères. La définition est d'ailleurs devenue tellement floue que certains auteurs se moquent du terme ou le rejettent, estiment qu'en fait toute bande dessinée c'est un roman graphique et vice versa. Et puis je vous ai apporté juste deux albums. Non mais c'est pour vous montrer la différence. Alors évidemment on est à la radio, on n'a pas l'image. Là par exemple c'est un ouvrage qui vient de sortir chez Futuropolis, c'est très gros. Hein. Ça s'appelle Les Enfants Pâles, c'est sous-titré roman graphique. Le scénario est de Lo Lui Fang et le dessin de Philippe Dupuis. Dupuis c'est le Dupuis de Dupuis et Berberian. Et là regardez, il y a beaucoup de textes, hein. C'est un roman très épais. Je ne sais pas combien ça fait de pages, hein, quasiment 400. Et c'est quelquefois il y a des pages blanches ou des pages avec des dessins, on dirait des estampes. Et c'est un roman très cruel, hein, une sorte de conte pour adultes.
Et puis il y en a deuxième.
Et un deuxième qui s'appelle Un peu de bois et d'acier de Chabouté chez Vent d'Ouest. Et là, il y a aucun texte. Il n'y a que des dessins. Et ça raconte uniquement, image par image, c'est quasiment un découpage de film, un banc. En fait, c'est un plan fixe quasiment sur un banc. Et en fait, au cours de la journée, les différentes personnes qui s'assoient, ça raconte plein de petites histoires et c'est formidable.
Oui, ça demande, merci beaucoup Sophie, ça demande, Jean-Baptiste B, une certaine concentration. Hein, parce que l'image dit beaucoup de choses, mais il faut prendre le temps de l'observer de près pour bien sentir l'ambiance.
C'est-à-dire au moment de la lecture.
Au moment de la lecture, oui, absolument.
Oui. Bah ça c'est certain. Après c'est à chacun de s'adapter de la façon dont il souhaite dans la lecture. Il y a beaucoup de gens qui ne lisent que les textes et qui prennent les dessins aussi comme juste une ambiance, un univers. Après c'est à chacun de voir la façon dont il souhaite.
Vous avez été obligé, Johanna Sébrien, de simplifier, forcément, de tailler un peu dans les faits. Comment s'est passé le choix?
Bah, ça a été très difficile. Je pense que ça a été même le plus difficile. J'avais fait un mémoire déjà de 100 pages. J'avais déjà bien sélectionné. J'ai essayé de prendre les moments clés du procès, notamment pour la partie procès. Et puis, dans la partie avant le procès, donc qui se déroule de 42 à 97.
Mmh. Et c'est plus des deux tiers du livre. Hein,
voilà. Les moments un peu marquants de l'histoire du XXe siècle relatif à la Shoah. Je pense au procès Eichmann qui s'est déroulé en 61. Il y a eu aussi bon, les ratonnades d'octobre où Papon...
Charonne, le maître Charonne.
Voilà.
Il était préfet de police de Paris.
Voilà. Et puis donc... c'est vrai que ça. J'ai essayé de synthétiser, de... Voilà, c'était très compliqué.
Vous avez choisi de nous raconter ce dossier Papon d'avant-procès à travers le destin d'Arthur, un fils de déporté qui consacre sa vie à la recherche des coupables. Est-ce que c'est un personnage fictif totalement ou est-ce que vous êtes inspiré du destin particulier d'un homme?
Alors à la base c'est un personnage une personne qui existe qui s'appelle Michel Slitinski, donc qui a écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle Le Devoir de Justice dans lequel il raconte comment il a cherché à accéder aux archives pendant des années. Ensuite donc je me suis inspirée de son livre et de son parcours pour en faire une fiction, parce que ça me donnait quand même plus de liberté. Sa vie n'était pas forcément adaptable en tout point de manière fictive. Donc voilà, j'ai pris énormément de liberté. Le point de départ reste ce qui lui est arrivé, puisqu'il a réussi à fuir lors de l'arrestation de ses parents en 42. Mais ensuite, disons que voilà, j'ai fait évoluer l'histoire à ma façon.
C'était inimaginable de raconter cette histoire à travers le personnage de Papon.
Si j'aurais pu, c'est vrai que j'ai préféré choisir le parcours de quelqu'un qui lutte contre les institutions, qui va. En fait, l'idée, si vous voulez, c'était de défaire un peu cette idée aussi du juif un petit peu passif qui se laisse aller déporter. Enfin bon, tous les juifs n'ont pas été passifs. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais disons que la mémoire est assez marquée par ces images-là, notamment dans les films. Et ça me plaisait l'idée de prendre quelqu'un qui justement réussit à fuir et lutte et finit par avoir gain de cause quoi. À la fin, c'était un parcours qui n'a pas été montré en tout cas dans les œuvres, qu'elles soient cinématographiques ou livresques. Voilà.
Donc le fil rouge du livre, c'est donc Arthur. Maurice Papon, lui, apparaît régulièrement, mais il n'est pas présent en permanence. Vous nous rappelez également le contexte, hein, vous faisiez référence au procès Eichmann il y a quelques instants. Mais quand Papon est présent à l'image, eh bien les faits sont là et ils sont traités de façon assez clinique. Par exemple, on est page 44-45.
Oui, entrez.
Monsieur Papon, vous souhaitiez me voir ?
Oui, Gara, lisez-moi ça.
Note du ministère de l'Intérieur, datée du 1er septembre 1942. Oui, je connais déjà ce document.
Pas vraiment, si j'en crois les derniers chiffres. Continuez à voix haute.
La délégation générale au territoire occupé veut savoir si de nouveaux contingents peuvent être adressés de zones libres en zone occupée pour alimenter les convois. Les quotas fixés par les Allemands exigent le ramassage de 7000 Israélites de plus.
Oui.
Et comme il n'y a pas assez de juifs étrangers pour satisfaire les quotas de 1000 juifs par convoi, on complétera par les juifs français détenus dans les camps d'internement. Mais qu'attendez-vous de moi ?
Mais videz le fort et Mérignac. Et fermez la porte en sortant.
Boris Vigitte dans le rôle de Gara et Renaud Amadeux qui a prêté sa voix à Maurice Papon, texte donc issu de Crime de papier de Johanna Sébrien et Jean-Baptiste B. chez Actes Sud qui sont avec nous. Johanna Sébrien, quelle image avez-vous de l'homme Maurice Papon?
Évidemment, je le connais pas. J'ai l'image de quelqu'un d'assez monolithique qui, toute sa vie, aura été campé dans ses convictions et qui aura eu du mal. Et je crois même qu'il ne se sera jamais vraiment remis en question, quoi. Puisque de toute façon, les peu de passages qu'on a médiatiques montrent que, voilà, il est convaincu d'avoir fait son devoir jusqu'au bout. Et il disait même à un moment, si c'était à faire, je le referais, ce que cite d'ailleurs Arnaud Klarsfeld pendant le procès. Et il le redit, donc ce qui choque d'ailleurs beaucoup.
Donc c'était pas un homme broyé par la bureaucratie, parce que vous insistez beaucoup sur la terrible machine administrative, sur la nécessité de respecter les consignes de l'occupant. Il n'a pas été broyé par le système, Maurice Papon. Est-ce qu'il avait vraiment le choix?
C'est très difficile. Moi, j'étais pas en 42. Après, par conviction personnelle, je dirais qu'on a toujours le choix. Évidemment, voilà, je fais pas partie de cette génération, donc j'imagine que ça devait être très compliqué quand on était dans une administration telle qu'une préfecture de pouvoir désobéir, ne serait-ce que par quand on a envie de développer sa carrière, quoi. Papon était un carriériste avant tout, donc voilà. Après, je pense qu'il avait une marge de manœuvre. C'est évident. De toute façon, quand on a des responsabilités, on a toujours une marge de manœuvre.
Panic Station, extrait de The Second Law, nouvel album de Muse qui sort demain. Muse en concert ce soir à l'O2 Arena de Londres et mardi prochain à l'Olympia à Paris. Allez, un petit tour à présent par la Biennale d'Art Contemporain de Belleville dans l'Est de Paris. Pour la seconde saison, ce quartier populaire devient le terrain d'expérimentation artistique très étonnante et ce pendant plus d'un mois à l'extérieur, dans les espaces publics, dans les locaux d'associations ou dans des lieux dédiés à la culture comme le 104 avec une exposition collective sur les révolutions politiques. Elle s'ouvre ainsi à la création nationale et internationale. Exposition hors les murs, un reportage pour Vous m'en direz des nouvelles, signé José Marigno.
Vous m'en direz des nouvelles ! Entre les chants d'un mariage protestant africain et un bal latino-américain en plein air, Belleville, quartier aux accents et croyances multiples, affiche l'art au grand jour. Des fausses trappes crayonnées comme des ouvertures imaginaires sur le trottoir par Aldric Mathieu, aux photos d'ombre et de lumière posées sur une fontaine par Cécile Barthes, ces artistes se confrontent à l'art urbain du street painting. Patrice Joly, le commissaire général de la Biennale de Belleville.
On propose un peu de sortir un peu de leur médium habituel qui est plutôt de travailler sur la toile et puis d'investir d'autres endroits, le bitume, des endroits un peu inhabituels, boucher des trous, créer des fausses embrasures de portes. Donc c'est pas hyper spectaculaire, c'est plutôt hyper discret. De toute manière, l'art, c'est aussi une quête individuelle. Il faut faire une démarche, il faut faire un effort, parce que si on vous donne les choses toutes faites, forcément, vous allez les prendre et puis vous n'allez pas forcément les garder longtemps.
Les expositions originales fleurissent sur le bitume de ce quartier populaire de Paris. C'est le cas du Grand Tour, un projet inédit concocté par la critique d'art Claire Moulaine.
Alors, le Grand Tour, au départ, c'est une tradition au XVIe siècle qui consistait pour la jeunesse, disons un peu fortunée, un peu éduquée, européenne, à visiter un certain nombre d'ateliers, de grands peintres aussi de la Renaissance. Et donc, c'était une sorte de parcours initiatique.
Quelques siècles plus tard, cette idée prend forme dans différents lieux, parfois insolites.
Il s'agit quand même de faire le tour de 8 ateliers d'artistes sur le territoire de Belleville et du Grand Belleville, donc de montrer la fabrique aussi de l'art. Ça n'est jamais l'artiste dont c'est l'atelier qui présente son propre travail, comme ici où nous sommes, qui n'est pas vraiment un atelier, qui est un atelier son, disons, qui est le studio son du groupe R.
Conçu spécifiquement pour le studio d'enregistrement du groupe électropop français R, Le Miroir Froissé est une œuvre à la fois psychédélique et futuriste, signée Mathias Kiss.
On est dans la pénombre parce que ça permet d'être impressionné par cette œuvre. J'étais à la recherche de sensations physiques plutôt que d'être dans la perception visuelle. C'est un miroir froissé dans lequel on ne se voit pas. Et l'idée, c'est que ça renvoie un peu à soi-même et que ça fasse partir cérébralement et qu'on chacun y retrouve ses émotions. Ça renvoie à son passé ou à ce qu'on aimerait faire demain.
Le Miroir Froissé diffuse une bande-son composée par le duo R, dont fait partie Jean-Benoît Dunkel.
Quand on regarde le miroir, donc ce sont des surfaces réfléchissantes qui sont coupées et qui se chevauchent à partir d'un certain angle. Et donc du coup, il y a ce côté onde aussi. Lorsqu'on travaille dans le studio, on a un ordinateur et puis parfois on coupe des ondes, c'est-à-dire on coupe des fichiers entre eux, on voit les ondes et c'est même beau sur l'ordinateur. Moi, ce qui me fascine toujours, c'est que je passe mes journées à créer finalement rien de qu'on puisse toucher avec les doigts. Aujourd'hui, on a trouvé Mathias pour nous enlever cette frustration.
Jouant sur l'absence d'espace d'exposition à Belleville, cette jeune biennale d'art discrète, anticonventionnelle et non sensationnaliste, se découvre à l'aide d'un plan comme dans un jeu de piste.
Reportage de José Marigno. Une pause. Le flash, on se retrouve pour évoquer Crime de papier de Johanna Sébrien et Jean-Baptiste B et revenir sur la force de l'image en matière de justice. Restez avec nous.
L'épopée des musiques mares.